et surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série exclusive présentée par Anizen, les 10 leçons pour apprendre à s'aimer. Et cette leçon, la cinquième leçon, s'appelle « Célébrons nos victoires ». Alors, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup réfléchi à cette cinquième vidéo. J'ai vraiment pris le temps aussi de me questionner sur ce que je voulais vraiment dire. Et il y a notamment un témoignage qui m'a particulièrement interpellée sur mon groupe L'amour hypersensible, qui est donc un groupe Facebook. Donc je vous invite à vous inscrire si vous avez envie de partager au sujet de l'amour hypersensible. Il y a une personne en fait qui était, je pourrais dire, déçue, frustrée de là où elle en était. Elle présentait, comme d'ailleurs beaucoup d'hypersensibles, le fait qu'elle avait fait un immense travail sur elle-même, qu'elle avait appris à poser des limites, qu'elle avait appris à se connaître, à accueillir ses émotions, etc., 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 et puis qu'au fond, elle était toujours seule, et puis que donc elle commençait à se demander ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et puis, je la sentais un peu exaspérée, elle me disait, voilà, moi j'en ai un peu marre de ce concept de l'amour de soi, et je dois dire que je la comprends, en fait, parce que c'est vrai que c'est devenu aussi parfois un peu un leitmotiv, voilà, si tu veux qu'on t'aime, il faut d'abord apprendre à t'aimer toi-même et machin truc, il faut s'aimer inconditionnellement. Parce que bah, pour avoir vécu un très long célibat, alors peut-être pas uniquement, mais disons en tout cas une quinzaine d'années finalement, sans avoir vraiment de relations stables, je dois dire que je la comprends, c'est-à-dire que moi je faisais énormément de travail sur moi, j'ai lu tout un tas de livres, j'ai fait tout un tas de formations, de thérapies qui m'ont coûté un saladier. Je pensais avoir atteint un certain niveau, pourtant je parvenais pas à rencontrer la personne qui me convenait. Et puis voilà, je comprenais pas ce qui se passait en fait. Et puis c'est vrai que ça m'énervait, et même je dois dire que par moments, je pense que je suis devenue aigrie et que j'ai été même jalouse de voir les gens autour de moi pour qui tout semblait facile, qui avaient trouvé quelqu'un des fois à l'adolescence, qui semblait en tout cas de mon point de vue heureux. Enfin certainement qu'il y avait aussi une part d'illusion là derrière. Voilà, moi mon rêve c'était de fonder une famille. Et puis par dépit en fait ben, j'ai fait une carrière qui m'a convenu très moyennement. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux. Et puis voilà pourquoi moi j'y avais pas droit, pourquoi personne n'était attiré par moi, pourquoi je tombais jamais amoureuse, pourquoi j'arrivais pas à faire des grandes rencontres, c'était pourquoi, il y avait forcément un truc qui clochait chez moi. Et au fait, je suis même allée très loin dans ce concept, c'est-à-dire que j'ai été assez loin pour faire des stages, pour apprendre à draguer dans les bars, enfin des trucs de fou qui en plus allaient contre ma nature en fait, parce que je suis pas du genre à aller papillonner dans un bar pour rencontrer des hommes, ça me convenait pas du tout. Donc en fait à un moment donné ben, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit bon ok, visiblement ça doit pas être pour moi, parce que voilà, moi je vais pas y arriver en fait, ma vie. Aller dans des bars, être un peu aguicheuse, faire plein de rencontres pour potentiellement, statistiquement, tomber sur la bonne personne. Voilà, enfin, ça ne me parlait pas du tout. Et donc, bon, finalement, pour être honnête, ensuite je me suis dit, ben, il faut croire que je suis faite pour vivre avec Jésus, donc je vais entrer dans les ordres. Et là aussi, j'ai entamé une période de discernement. Et puis, j'entendais, ben, en fait, non, c'est pas pour toi, ça va pas te convenir, ça va pas t'épanouir, sois patiente, j'ai prévu autre chose pour toi. Je te demande de rester là où tu es, donc autant dire que ça me plaisait pas du tout, parce que j'aimais plus trop mon travail. Je me souviens d'ailleurs exactement du jour où c'était, j'étais à Bâle, je travaillais pour une grosse société pharmaceutique en Suisse. Je voyais pas vraiment d'avenir. Ni en tant que thérapeute, parce que j'avais déjà tenté l'affaire et puis ça n'avait jamais rapporté quoi que ce soit. J'avais loué une pièce pendant des mois, je crois même quasiment un an, il n'y avait jamais personne qui m'avait appelé. Et puis, alors chez Novartis, ben, j'étais visiblement appréciée, mais je m'ennuyais terriblement. Et puis vraiment, je me sentais dans une voie sans issue, très déprimée, très tourmentée par des questions existentielles. Mais qu'est-ce que Dieu peut bien attendre de moi? Je ne comprends pas. Ça se trouve, je me suis plantée sur toute la ligne. Et là, voilà, de nouveau, presque pour ne rien vous cacher, quasiment envie de mourir, une anxiété qui avait explosé le plafond. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vous parle de ça, ça fait 12 ans, voilà. Et maintenant, ça fait 10 ans que j'ai fondé le Centre Anizen. Donc en fait, effectivement, c'était juste un peu avant que mon miracle se produise, que finalement, je découvre mon hypersensibilité, que je découvre en fait quels étaient les tenants aboutissants, que je puisse comprendre un petit peu ce qui se passait. Et là, j'ai fait une prière, je me suis littéralement mise à genoux. Quand j'ai compris ça, en fait, j'ai aussi compris que toutes ces années de thérapie, ce qui m'avait finalement animée, c'était l'idée de devenir normale. Donc en fait, j'avais pas essayé de comprendre ou d'accepter, j'avais essayé de changer pour devenir quelqu'un que, au fond, je réalise aujourd'hui que je n'étais pas. Pensant que ainsi j'allais correspondre, que j'allais mieux réussir et surtout mieux plaire. Et puis aujourd'hui, 12 ans plus tard, force est de constater que c'est ma particularité qui a plu en fait à l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Et c'est sa particularité à lui qui fait que je l'aime aussi fort et que je suis tellement heureuse dans mon couple aujourd'hui. Donc comme quoi la vie est finalement bien faite. Mais pourquoi aussi je vous parle de tout ça, c'est que parfois on est mis face à nos doutes, face à des épreuves qui viennent nous chercher très très loin, très très fort. Et ça, c'est peut-être le chemin de la personne hautement sensible. Moi, je crois qu'en fait, la haute sensibilité, c'est un choix d'incarnation. Je crois qu'on fait ce choix parce que... Enfin, ça, c'est mes croyances, hein. Chacun croit ce qu'il veut, évidemment, mais après toutes ces années, finalement, où je me suis posé toutes ces questions, je me dis, ok, alors, tout ça doit avoir un sens. Beaucoup de choses m'échappent. Je pense que l'intelligence humaine est limitée, on ne peut pas tout comprendre, mais il y a obligatoirement quelque chose qui a été voulu. Voilà, parce que je crois profondément que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Einstein disait qu'il ne joue pas au dé. Eh bien, c'est ça, je pense que, voilà, il y a obligatoirement quelque chose à tirer de cette particularité que j'ai et que beaucoup ont finalement d'être très sensibles émotionnellement. Et puis, ça nous oblige, en fait, à aller en profondeur, guérir nos blessures, se poser les vraies bonnes questions, parce que si on ne le fait pas, en fait, rapidement, on va basculer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'anxiété, de la souffrance, de la dépression. Pour ma part, c'était ce qu'on appelle un bore-out, c'est-à-dire que c'est en fait l'ennui qui nous tue. Voilà. Un manque de sens aussi profond. Et aujourd'hui, heureusement pour moi, c'est vrai que ça a été un long chemin, mais ça m'a tellement, tellement apporté, j'ai tellement grandi et je pense aussi beaucoup mûri. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo courte sur un peu ces clichés, voilà, un peu de New Age classique, tout est magique, il n'y a qu'à se nettoyer l'aura, porter une pierre, etc. Bonjour à toi, petit bisounours hypersensible. Aujourd'hui, je vais t'apprendre tout ce que tu as besoin de savoir pour être heureux dans la vie. Il n'y a qu'à faire ceci. Et schling, de la poussière d'étoiles, pense à une licorne qui vole dans le ciel et sent cette énergie arc-en-ciel qui vient nettoyer ton aura à la fréquence de 432 Hz. Alors inspire l'instant présent et expire toute cette négativité que tu as dans ta petite tête. Un peu en rigolant parce que j'y ai cru pendant un moment et je me suis même auto-flagellée. Bon, il faut dire que j'étais passée maître dans l'art de l'auto-flagellation, donc je m'étais auto-flagellée parce que j'arrivais pas aussi magiquement à être tellement heureuse et tout n'était pas aussi facile et que j'étais vraiment sempiternellement confrontée à ces conflits intérieurs. Et aujourd'hui, je pense qu'en réalité, si j'avais pas été une personne hypersensible, j'aurais trouvé le moyen de me conformer, de me conforter dans la situation dans laquelle j'étais parce qu'elle m'apportait évidemment une certaine sécurité, une certaine reconnaissance sociale. Donc on aurait pu penser de l'extérieur que j'avais réussi. Je me serais peut-être contentée d'une de ces relations que j'avais eues par le passé. Je me serais peut-être mariée, j'aurais eu une famille. Et puis finalement aujourd'hui c'est évident que ce mariage aurait été un échec. Et pourtant j'aurais trouvé le moyen de composer avec tout ça. Mais au fond, je peux dire aujourd'hui que c'est mon hypersensibilité qui m'a préservée de ça et qui fera très certainement que le jour de ma mort, je pourrai me sentir en paix et satisfaite des efforts que j'aurai accomplis pour découvrir la vérité. J'aurai toute ma vie œuvré dans cette quête. Et cette quête, c'est aussi finalement l'appel pour moi du Christ. Alors pour chacun, ce sera peut-être un appel différent. J'imagine qu'on suit tous les philosophies qui résonnent pour nous. Mais pour moi, depuis l'enfance, ça a toujours été Jésus. Et c'est pour ça que j'avais aussi envie d'aborder certaines fois la vidéo d'aujourd'hui en apportant des versets bibliques et aussi certaines citations qui ne sont pas issues de la Bible pour étayer un peu mon propos et vous montrer que ce que je dis là, bon, c'est peut-être mon expérience, c'est peut-être mon vécu, mais je peux dire que j'ai retrouvé dans les enseignements, et pas uniquement les enseignements bibliques, mais aussi certains livres, comme par exemple « Après l'extase, la lessive », que vraiment je vous conseille, et qui parle un petit peu de ce désenchantement, de cet état d'éveil qui est soi-disant une apothéose, une quête et une fin en soi. Pas du tout. Il y a ce moment d'éveil où on a l'impression d'être connecté à Dieu, puis ensuite on revient incarné dans sa personnalité et on poursuit le chemin de développement, et ça peut parfois passer par des phases compliquées. Et c'est aussi un petit peu ce que dit la théorie de Dabrowski. Alors voilà pour cette introduction, j'espère vous avoir donné envie de regarder cette vidéo. Célébrons chacun nos victoires. Et je vais parler donc dans cette vidéo des diverses étapes de formation du guerrier de lumière. Comment est-ce qu'on passe de l'état du bisounours à l'état du guerrier de lumière? Et comment voilà, se passent un petit peu en général ces étapes de maturation spirituelle pour atteindre vraiment un état de sagesse? Et c'est vraiment une sagesse profonde où notre foi, où existentiellement on a été confronté en fait à se poser des vraies bonnes questions, et on a probablement découvert que les choses n'étaient pas aussi simples que ce qu'on aurait pu ou voulu espérer. Voilà, donc je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach. Vous trouvez toutes les informations me concernant sur mon site internet www.anizen.ch. Je vous verrai aussi les thérapies que je pratique. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube, mettez un commentaire, likez, voilà, la petite cloche, tout comme il faut, pour continuer de suivre ces vidéos que je poste et que j'essaye vraiment de faire avec beaucoup d'attention et beaucoup de travail. C'est pour ça qu'elles sont souvent assez longues, mais j'essaye de publier aussi des extraits parce qu'apparemment, c'est un petit peu aussi ce dont les gens ont besoin. Évidemment, ce que je dis là, c'est peut-être aussi ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, même si probablement ce n'était pas possible parce que c'est le fruit de l'expérience, mais en espérant que ça puisse peut-être vous faire gagner un peu de temps, ou en tous les cas, peut-être vous donner cette sensation que vous n'êtes pas seul en fait, que les choses elles résonnent, mais surtout, j'ai envie de dire aussi de pouvoir vous approprier comme étant un choix ce profil qui parfois vous fait souffrir, mais qui est aussi en fait, finalement, le chemin le plus rapide et le plus sûr vers l'évolution et la maturation spirituelle.
Être sensible, c'est être vivant, et nous ne sommes jamais trop vivants. Je suis née très sensible, comme vous pouvez le remarquer, et pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était pas bien d'être sensible, parce que ça me faisait défaut dans la vie, parce que ça se traduisait en pleurs, en cris, en colère, en plein de choses pas très agréables, et je me suis rendu compte que ce que je pensais être mon plus grand défaut dans ma vie était finalement ma plus grande qualité, et je suis trop contente. Le monde est tellement beau et en même temps tellement horrible. À notre petite échelle, on peut faire des choses et entre autres.
Donc, qu'est-ce qu'il y aura dans cette vidéo? Eh bien, justement, pourquoi c'est important de célébrer ses victoires? Alors ça, c'est peut-être un peu plus fun comme ça, effectivement. Parce qu'il y a en fait des études qui démontrent que ça fait vraiment du bien à la psychologie et à l'énergie de pouvoir célébrer ses victoires. Et ça pourquoi? Déjà parce que ça libère des neurotransmetteurs en fait. Quand je célèbre ma victoire, je vais commencer à libérer de la dopamine qui est le neurotransmetteur, enfin la substance chimique si vous préférez, qui est responsable du système de la récompense et de la sérotonine qui régule l'humeur. Alors ça, si vous avez dû dans votre vie déjà prendre des antidépresseurs, vous savez que ça agit souvent sur ces neurotransmetteurs-là, parce qu'effectivement, en plus, il semblerait que chez les profils hautement sensibles, les études sur la génétique démontrent qu'il y a souvent un peu des, on va dire, plus de difficultés à réguler ces taux-là, aussi parce qu'on est très stimulé, nerveusement, facilement surstimulé. Donc ça nous draine au niveau des neurotransmetteurs du cerveau. Le fait d'être souvent émotionnellement actif, réactif aussi, ça va drainer ces neurotransmetteurs-là. Beaucoup d'entre nous avons traversé aussi des choses qui nous ont mises au défi et qui nous ont questionnées. Et le fait d'être une personne hautement sensible, en fait, ces événements négatifs, d'ailleurs tout comme les événements positifs, vont avoir plus d'impact sur nous. Et la bonne nouvelle, c'est aussi qu'on est plus réceptif aux thérapies, donc il y a beaucoup plus de chances en fait de s'en remettre. Mais ça veut dire que ça va demander un travail et vraiment de prendre la responsabilité de ce cheminement aussi de guérison. Pour moi, la guérison, elle est divine, mais c'est comme si elle était quand même le résultat d'une quête, d'une recherche et aussi une posture dans laquelle on va se mettre. C'est aussi ça que je vais présenter aujourd'hui dans cette vidéo, quand je parlerai dans un second temps donc des étapes qui transforment le bisounours en guerrier de lumière. Célébrer ses victoires, alors déjà, au niveau neurochimique, ça a un impact positif, mais aussi ça renforce évidemment l'estime de soi parce que ça nous pousse quelque part à nous focaliser sur nos succès, à voir les choses positives en fait. C'est évident qu'on a tendance souvent, en particulier si on a un trouble de l'estime de soi, à se focaliser sur toutes les choses qu'on doit améliorer. Un côté positif là-dedans parce qu'on sent qu'il y a une quête d'excellence, sauf que ça peut devenir en fait presque une espèce de violence, de torture mentale parce qu'on n'est jamais satisfait de soi-même. Donc en fait, le fait de pouvoir aussi relever les aspects positifs et de s'autoriser à les célébrer, ça nous motive en fait, ça nous garde motivés, ça nous préserve probablement aussi de la frustration grosse obligatoirement quand on est dans un processus évolutif. Parce que justement, le fait d'évoluer va nous confronter à nos limites, à nos faiblesses, à nos failles. Et donc, dans ces moments-là, il faut aussi savoir à quoi se raccrocher. C'est pour ça que moi, je vous invite dès maintenant à faire ce petit exercice, peut-être de noter sur le papier certaines des victoires, ce que vous considérez comme des victoires, et puis de les garder bien au chaud comme ça, et même éventuellement de vous reconnecter avec ce moment, avec les émotions que vous avez ressenties, pour vraiment le cultiver. Ça va vous aider aussi dans les moments difficiles, de revenir là-dessus. Et dans la Bible, par exemple, on dit qu'il faut se remémorer les bénédictions de Dieu, les fois où on s'est senti aidé, où on a senti un peu comme des petits miracles. Eh bien, de la même façon, je vous suggère vraiment de vous féliciter pour les progrès. Et là, c'est aussi un exercice, je pense, très certainement, de se féliciter pour les progrès. Parce qu'évidemment, on a toujours quelqu'un à qui se comparer, hein, qui va être meilleur. Par exemple, moi j'ai perdu du poids et puis je suis toujours pas au poids que je souhaiterais avoir, donc je pourrais me focaliser sur l'idée que j'ai toujours pas atteint ce poids-là, ou alors voir que j'ai déjà réussi en fait à me libérer d'une grande charge pondérale et que ça c'est déjà une victoire, et de prendre le temps de célébrer ça. Et ça m'encourage et ça me motive de poursuivre à prendre des actions qui sont bonnes pour ma santé. Voilà. Ces neurotransmetteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la dopamine, la sérotonine et certainement aussi d'autres, réduisent aussi le stress et l'anxiété. Donc c'est globalement évidemment positif pour surmonter les obstacles qui se présentent à nous. Vous avez peut-être déjà remarqué que lorsqu'on est épuisé, fatigué, lorsqu'on n'a plus d'énergie, qu'on est anxieux et stressé, tout paraît une montagne, tout est difficile. Moi, je me souviens d'une époque où c'était même difficile d'aller faire mes courses à la Migros, ça commençait à m'angoisser, j'ai l'impression que je ressentais tous les gens autour de moi, c'était vraiment... Alors qu'aujourd'hui, je peux aller faire mes courses, et puis j'en fais pas toute une histoire, ça se passe bien, somme toute, j'aime pas y aller, ça me fatigue, mais voilà, c'est un moment à passer, et puis je sais pourquoi je le fais, et ça va passer très bien. Il y a eu des périodes de ma vie où j'étais très épuisée, où c'était carrément une immense montagne. C'est aussi une rééducation de l'esprit. Là où je suis pas d'accord avec cette psychologie positive magique, c'est que je ne crois pas qu'on puisse vraiment se forcer à penser positif. Toutefois, ça demande un exercice et une intention de, en fait, choisir aussi d'observer les choses depuis ce vase à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Moi, je crois quand même que c'est beaucoup plus facile quand on a une vie équilibrée, mais quand on est un peu dans le creux de la vague, voilà, ce genre d'outil peut être utile au moins pour se différencier, pour se dissocier, et pour réaliser les enjeux qui sont en train de se jouer à l'intérieur de mon esprit qui devient un champ de bataille. Et on appelle ça dans les domaines spirituels le combat, justement, parce que c'est vraiment un combat entre moi et puis ce qui cherche, si vous voulez, donner une image un peu ce qui cherchera à me détruire ou les pulsions de mort, comme dirait la psychanalyse. Mais il y a vraiment en soi, j'ai envie de dire, des résistances. Sinon, évidemment, justement, ce serait magique, en fait. On serait tous conscients de l'amour de Dieu, que Dieu est miséricorde et qu'on est tous, que Dieu a pour nous tous un plan d'espérance. On serait tous heureux dans l'acceptation, on serait tous des Bouddhas qui mènerions comme ça dans les rues du paradis. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a de grandes résistances, il y a des grands défis qui nous attendent sur ce chemin de maturation spirituelle. Alors moi, longtemps, ça m'a énervée, pour ne rien vous cacher. Je me demandais pourquoi Dieu avait prévu les choses comme ça. Pourquoi il y avait des défis, pourquoi il y avait autant d'épreuves, et pourquoi, voilà, s'il est omnipuissant, pourquoi il fallait évoluer, enfin bref, il y a plein de questions comme ça. Alors, je ne prétends pas avoir trouvé toutes les réponses, mais je me souviens avoir médité comme ça, parce que j'en pouvais plus en fait de ces questions dans ma tête, ça me tourmentait, ça m'empêchait de dormir, et j'ai eu cette voix dans mon cœur qui m'a dit, mais en fait, tu n'es pas là pour tout comprendre, tu es là pour apprendre à faire confiance. Fais confiance à ce processus. Et puis, beaucoup de gens disent qu'en fait, c'est aussi dans l'épreuve qu'on se renforce. Et force est de constater que c'est vrai, en fait. C'est-à-dire que si j'avais probablement pas été obligée et poussée, presque pour une question de vie ou de mort, à évoluer, je serais certainement pas là où j'en suis aujourd'hui. Encore une fois, je pense que je me serais conformée, confortée, dans une, finalement une zone de confort qui était, somme toute, devenue inconfortable. Mais j'aurais pas eu la force ni le courage de quelque part tout remettre en cause pour revoir ma vie de A à Z, et je n'aurais pas découvert sur moi et sur le monde et probablement sur Dieu les choses que j'ai découvertes. Donc c'est vrai que c'est un défi, comme le disait Mère Teresa, la vie en fait, c'est une aventure qu'il nous faut traverser, accepter aussi. Et quelque part, c'est ça, j'ai envie de dire, l'excès de précaution détruit l'âme, disait cette citation. Et vraiment, par moments, on doit prendre des risques, mais c'est vrai que, en tout cas, certains d'entre nous, et en particulier les profils hautement sensibles, n'aiment pas particulièrement l'inconnu, prendre plein de risques, mettre en péril notre sécurité. Et pourtant, c'est bien ça qui nous pousse à évoluer. Et je reprendrai cette métaphore, justement, du diamant. Le diamant, donc, chimiquement parlant, c'est exactement la même composition qu'une mine de crayon. C'est du carbone à l'état pur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut transformer en fait une mine de crayon en diamant ? Alors, ça se passe dans la nature, dans certaines conditions extrêmes de pression, par exemple, ça se passe aussi en laboratoire, de façon artificielle, ça donne ce qu'on appelle le zircon. Mais c'est vraiment, voilà, on est mis sous pression. Quelque part, il n'y a plus qu'une seule voie, c'est celle de transcender, la lumière puisse passer. Et on dit aussi que les épreuves, c'est un peu comme si on venait tailler ce diamant quelque part pour lui permettre de refléter le plus de lumière possible. Et je trouve que c'est une belle image. Et voilà, l'enjeu peut-être du bisounours qui devient un guerrier de lumière, c'est d'accepter que nous soyons tous embarqués dans ce voyage, dans ce processus de maturation. C'est pas ce qu'on aurait voulu. C'est évident que si vous me demandez à moi, jamais j'aurais eu envie, forcément, en tout cas consciemment, de traverser ça. J'aurais bien préféré être heureuse en paix dans mon paradis, que tout le monde se tienne la main, chante des chants d'amour. Et voilà, j'ai longtemps, quelque part, espéré même que les choses soient plus faciles, voulu être comme les autres pour qui tout me semblait si facile. Au fond, je crois que personne n'a la vie aussi facile que ça, mais peut-être pour la vie est plus facile que pour moi, dans le sens où voilà, ils sont moins bouleversés, poussés, sous pression peut-être, mais en même temps, il faut croire qu'il y a une raison à ça. Il faut croire que, in fine, parce que Dieu est aussi justice et parce que Dieu est aussi miséricorde, il y aura quelque part un fruit et que ce fruit sera délicieux. Et moi, j'ai choisi de croire à ça. Pourquoi ? Aussi parce que sinon, je dois constater que ça me déprime en fait. Je suis anxieuse, je pars dans le doute, dans mes ruminations, je commence à me poser plein de questions, tout ça n'a plus de sens. Et voilà, ça, en fait, ça ne peut pas être vrai. Parce que si c'est la vérité, si ça vient de Dieu, il y a quelque part au fond de nous quelque chose qui est apaisé. Même si c'est difficile, même si on sent que ça vient nous chercher au plus profond de nous, il y a comme cette conviction que c'est le bon chemin. Et là, je dois dire que c'est aussi une manière de savoir si, ok, je suis dans le juste, si voilà, je suis sur la bonne voie, tout n'est peut-être pas révélé, mais je suis sur le bon chemin, ou pas. Célébrer ses victoires, ça renforce aussi la connexion avec les moments positifs de la vie et ça nous pousse vers la gratitude. Et ça, il y a plein d'études aussi qui démontrent que le fait de cultiver la gratitude, ça rend plus heureux. Et ça encourage aussi l'estime de soi, évidemment. Et puis, on a remarqué que les gens qui pratiquaient la gratitude avaient moins tendance justement à se comparer aux autres. Et ça, c'est une libération totale. Quand en fait, on n'a plus besoin de se dire que c'est nous qui avons un problème, qu'on est nul, qu'on est trop ci, trop ça, trop compliqué, trop émotionnel, trop maquillant, trop truc. Et pas assez ci, pas assez ça, j'aimerais tellement être plus stable, j'aimerais tellement être plus mince, tellement être plus jolie, j'aimerais tellement avoir moins de cheveux blancs, j'aimerais tellement ci, tellement... C'est épuisant en fait, on n'en peut plus et on peut passer sa journée à ça. Et ça vraiment aussi, c'est dans ces moments-là où en fait avec la maturité spirituelle, on commence à se dissocier de ça et à se dire, ok, si je continue dans ce mode-là, c'est évident que ce soir, je ne vais pas me sentir bien. Je vais commencer à être frustrée, je vais gueuler sur mon fils, sur mon mari, je vais commencer à m'énerver. Je vais me sentir nulle, je vais être... alors, un jour comme ça, deux jours comme ça, puis au bout d'un moment, j'ai carrément envie voilà, d'en finir, parce que la vie n'a plus aucun sens. Donc, il y a quelque chose là, quelque part que inconsciemment, je cautionne. Et c'est comme si, en fait, je commençais à croire à ces mensonges, et puis à finalement me les approprier, puis me dire qu'effectivement, celle-ci, pour elle, c'est plus facile, donc elle doit forcément être mieux que moi, elle a dû faire un truc meilleur dans une vie antérieure. Moi, j'ai forcément tout foiré parce que j'ai perdu à la loterie de l'univers. Et voilà, et c'est parti. Et puis, c'est incroyable quand on dit que les hypersensibles ne savent pas méditer. Alors là, c'est incroyable le temps qu'on peut méditer là-dessus. Parce que méditer, c'est aussi... Par exemple, on peut méditer les récits bibliques dans le sens où voilà, on se questionne sur ce que ça veut dire. Mais là, alors, on peut méditer une pensée négative alors, pendant des heures sans jamais s'arrêter. Et là, il y a un focus incroyable, même chez les personnes qui ont soi-disant un trouble de l'attention. Voilà, c'est quasiment obsessionnel sur des trucs hyper négatifs. Et ça, c'est quand même des biais cognitifs qu'on a. C'est pas magique comme ça. On peut pas les changer en un instant parce que c'est comme si ça venait s'immiscer dans une faille. Donc, il y a tout un travail, j'ai envie de dire, pour aller questionner tout ça. Et il y a un moment donné, c'est comme si on passait un palier dans la maturation spirituelle et on a accès à une certaine forme de maîtrise et de choix. Et ça, il y a tout un processus qui permet d'en arriver là. Mais il y a un moment donné, on doit en avoir marre de s'auto-flageller. C'est nécessaire. Si on n'en a pas marre, on continue à faire ça parce qu'il y a comme quelque chose en nous qui va le justifier. On se dit oui, on ne va jamais s'améliorer si on ne se remet pas en question. Enfin, il y a toujours un tas de bonnes raisons de continuer à s'auto-flageller, n'est-ce pas? Sauf qu'en fait, ça mène qu'au dépit en réalité. Et ça, ben, c'est démotivant. Alors que justement, cultiver ses victoires, la gratitude, les progrès, même si on n'est pas encore là où on a envie d'être, et même si pour nous, ça a été un enjeu beaucoup plus difficile que ça l'aurait été pour quelqu'un, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, moi, j'avais de la facilité en mathématiques et il y a longtemps, je n'arrivais pas à comprendre les gens qui ne comprenaient pas. Voilà. Pour moi, je me disais, mais ce n'est pas possible, ils font exprès, parce que pour moi, c'était tellement évident et je n'avais jamais compris que j'avais une forme de don. Quelque part, pour moi, c'était facile. C'était évident, en fait. Ça faisait ting, comme ça. Ce qui n'était pas du tout le cas pour d'autres aspects, hein, comme par exemple l'orthographe, pour moi, c'est vraiment... vous aurez peut-être déjà remarqué ça si vous avez lu mes posts. Heureusement, maintenant, ils ont inventé des outils pour corriger l'orthographe. Mais voilà, c'est un peu comme si je n'avais pas détecté que j'avais ce don-là qui n'était pas donné à tout le monde. Eh bien, la sensibilité, l'empathie, c'est pareil. C'est-à-dire, nous avons un don. Nous avons un don que nous ne reconnaissons pas avoir, que nous vivons souvent comme un fardeau, comme un fléau. Et du coup, on se sent aussi rejeté par les autres. On a l'impression d'être dans un monde hostile. On pense a priori que tout le monde devrait fonctionner comme nous, parce que pour nous c'est évident, alors que ça n'est pas le cas. Et ça voilà, on commence à entrer dans le piège de la rumination, de l'auto-questionnement, de la remise en question, aussi du complexe d'infériorité, parce que c'est évident que dans notre société, les profils de personnes hautement sensibles sont moins bien valorisés, parce que la sensibilité n'est pas reconnue comme étant une qualité. C'est très différent, par exemple, dans les sociétés orientales. Donc, reconnaître en fait que c'est un don et avoir de la gratitude pour ça, ça permet aussi de changer le regard, de se positionner autrement. La gratitude renforce les émotions positives, mais là aussi j'ai envie de dire c'est un peu comme s'il fallait être prêt. Par exemple, il y a des états dans lesquels moi je me suis trouvée où si on venait me parler de gratitude, ça m'énervait profondément. Parce qu'en fait, c'est pas que je voyais pas que, par exemple, il y avait de l'eau qui coulait à mon robinet et que c'était une immense chance par rapport à une grande partie de la planète. C'est pas que je voyais pas, en fait, si vous voulez, que j'étais une privilégiée sous certains aspects, mais c'est que la torture mentale et la violence qui se passait dans mon esprit, en fait, me privait d'avoir tout accès à ce sentiment de gratitude. Donc là, je veux dire, c'est pas la priorité. Je pense que on peut malheureusement pas se forcer à la ressentir, cette gratitude, mais en revanche, d'avoir quand même cette intention, voilà, de se dire, il doit y avoir un moyen de voir ça autrement et de ressentir ça autrement. Donc je décide de ne pas croire entièrement à ce qui est en train de se passer en moi et de ne pas totalement m'identifier. Je me souviens très bien, j'ai eu une époque de ma vie, avant d'ailleurs d'ouvrir le cabinet à Nizen, où j'étais extrêmement fatiguée, mais alors une fatigue intense. Je me souviens même, je pouvais dormir 20 heures par jour, j'étais toujours encore fatiguée. Et puis j'avais cette voix qui me disait, mais ne t'identifie pas à cet état. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire parce que je n'arrivais pas à me sentir autrement et pour moi, ça prenait toute la place. Et un jour, j'ai compris quelle était la faille, j'ai pu me libérer énergétiquement de cette espèce d'énergie en fait qui m'endormait petit à petit, qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait de tout en fait. Et c'est passé comme ça d'un jour à l'autre et j'ai retrouvé de l'énergie alors que je pensais ne plus en avoir. C'est quand même fou, vous ne trouvez pas? Donc j'ai compris là, ah voilà, je m'étais identifiée, donc quelque part je n'avais pas pris les mesures qui étaient nécessaires pour sortir de cet état parce que je pensais quelque part au fond aussi le mériter, parce que justement j'étais une tellement mauvaise personne, etc. Donc ça peut aller très loin, hein, c'est-à-dire quand ça commence à s'immiscer ces pensées, que je les cultive en les ruminant, c'est comme si on dit je laisse un oiseau faire son nid en fait dans mon arbre. Donc je ne peux pas l'empêcher de se poser, mais je ne suis pas obligée de le laisser rester là. Et ces pensées-là justement sont toxiques, c'est vraiment des poisons, des mensonges. Et c'est quand je commence à y croire et que quelque part je renforce encore ces pensées en les ruminant que là je commence aussi à ouvrir toute la porte à ces états, j'ai envie de dire, d'hypnose négative. Donc en tant qu'hypnothérapeute, on voit ça un peu comme un cauchemar auquel on croit, c'est de rêver ou de cauchemarder quelque part éveillé. Et tout ça, c'est un processus. Et puis, ça dépend d'où on vient, c'est clair. C'est-à-dire, pour tout le monde, ça n'est pas, le combat n'est pas aussi difficile. Pour tout le monde, les enjeux ne sont pas aussi importants. Donc là, je m'adresse certainement à une partie de la population, et notamment probablement des hypersensibles, pour qui ça a été une vraie lutte, en fait, de s'en sortir. Et je pense faire partie de ces gens-là. Je me souviens avoir eu très souvent des pensées suicidaires, très jeune d'ailleurs. La seule fois où j'ai tenté, ben, j'étais bien trop petite pour comprendre que j'allais simplement me faire mal et que ça n'aurait aucun résultat possible. Je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai beaucoup souffert parce qu'à l'époque, ils ne m'ont pas donné d'anesthésion, ils m'ont juste attachée sur une table, ils m'ont recousue ici, j'ai encore une jolie cicatrice ici qui me rappelle bien ce qui s'était passé. Et puis, alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'après, ça m'a toujours guéri, en fait. À chaque fois, je me disais, bah, je vais juste me faire bien mal ou je vais bien me pourrir le foie, mais je vais me rater et je vais finalement, ça va être encore pire. Et je dirais, voilà, aujourd'hui, je pense très sincèrement que la plupart du temps, je suis dans une joie qui est un don, qui est une bénédiction et qui est accordée certainement à peu. Et cette joie, je l'ai conquise en fait. C'était vraiment le fruit d'un travail acharné où j'ai dû me battre contre ces démons intérieurs, contre ces états en fait, probablement parce que par manque de connaissances et d'outils et de sagesse, j'avais beaucoup trop cultivé cela et j'avais trop essayé de me changer pour correspondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et tout ce temps-là, je l'ai perdu parce que, alors on s'entend évidemment, ça fait partie du chemin, etc. On est bien d'accord, mais franchement, je le souhaite à personne. Si on peut le plus rapidement possible, et c'est probablement en chemin maintenant, dire aux hypersensibles, mais non, vous n'avez pas à changer. Vous pouvez tout à fait trouver un équilibre. Vous avez vécu des choses terribles, mais il y a un chemin, il y a une voie. Certains y sont parvenus. Inspirez-vous, gardez confiance, cherchez et vous trouverez, disait Jésus. Donc j'ai vraiment envie de vous dire ça, voilà. Cultivez chacun de vos progrès. Si vous en êtes au fait d'arriver à rester vivant un jour de plus, garder l'espoir un jour de plus, ou au moins attendre de voir si les choses peuvent être meilleures demain, c'est une victoire. Certaines fois, rester en vie, c'est la plus grande des victoires. Et moi, je vous encourage vraiment à lutter, à voir ça comme un combat que vous menez, en fait, vers la lumière. Qu'il y a effectivement des obstacles, quoi qu'on en dise, on pourra vous dire qu'il n'y a qu'à écouter de la musique à 132 Hz, mais ce n'est pas vrai. Il y a des fois, pour certains d'entre nous, où vraiment, il y a un enjeu colossal, de presque existentiel, en fait, de l'âme qui doit se libérer de quelque chose de très profond, de très noir, de très sombre, de très ténébreux, pour avoir accès quelque part à une immense lumière. C'est-à-dire que la qualité de la lumière et de la joie que vous allez expérimenter est en relation avec les défis que vous aurez surmontés. Et c'est quand on s'imagine que, voilà, nous, on est les seuls sur Terre à qui ce ne sera pas permis, qu'on est juste là pour souffrir. Alors là, on est en train de croire un immense mensonge. Et le fait de croire à ça, c'est ça, en Suisse, on dit, ça vous met dedans. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme ça que, quelque part, on laisse encore plus de noirceur prendre de place dans notre âme. Donc tout ça, c'est des mensonges. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à y croire. Mais essayez au moins de vous dire qu'il est possible, il existe une possibilité, même infime, que j'ai raison. Et si j'ai raison, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc oui, la vie peut ressembler à un combat. Voilà. On a envie d'être un bisounours, on a envie de se tenir les mains, de chanter des chants d'amour, on voudrait que tout le monde soit respectueux, que tout le monde soit bienveillant, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Les choses sont en haut comme elles sont en bas. Pendant longtemps, je me suis demandé ce que ça pouvait bien vouloir dire, mais c'est évident qu'aujourd'hui, nous, on s'inquiète de notre développement spirituel, de notre maturation spirituelle, alors qu'au même moment sur Terre, il y a des gens pour qui rien que le fait de survivre est un immense combat. Je n'ose pas imaginer ce qu'il en serait de moi si j'étais dans la même situation en ce moment en Ukraine, à Gaza. Je ne prétends certainement pas qu'il est facile en fait de mener ces combats-là. Pour certains, les combats sont réels, sont à l'extérieur. Et le vrai combat, c'est de rester en vie, de rester vivant. Et c'est quelque chose probablement de viscéral à ce moment-là. En particulier, j'imagine, si on a des enfants encore, qu'on souhaite protéger, qu'on doit défendre, qu'on veut défendre et qu'on se sent terriblement impuissant. C'est dans ces moments-là où il faut aller vraiment au fond de soi pour chercher la lumière. Pour certains d'entre nous, le combat se passe à l'intérieur de notre propre esprit, dans les quatre murs, des fois aussi de la maison. Des personnes qui expérimentent la violence conjugale, le mobbing. Il y a par exemple au Japon des gens qui se suicident tellement ils sont en burn-out, tellement ils sont sous pression, tellement ils ont perdu le lien avec finalement le sens de la vie. Donc ces gens qui se suicident ne sont a priori pas dans un pays en guerre et pourtant leur esprit, lui, est en guerre à tel point qu'ils perdent en tout cas cette bataille-là et qu'ils en viennent en fait à cesser de croire à tout espoir. Et ça, c'est vraiment ce qui est terrible. Et si j'ai envie de passer un message aujourd'hui, c'est ça, c'est que ne restez pas dans cette situation. Si vous n'arrivez parvenez pas à mener ce combat seul, demandez de l'aide. Mais c'est très important, il y a un moyen. En tant qu'hypersensible, ben voilà, souvent on se dit, ben c'est injuste, pourquoi moi, c'est insurmontable, je n'ai jamais y arriver, et puis je suis tellement gnagnagnagn. En plus, on se met soi-même de la pression parce qu'il faut être parfait. Et puis, tout ceci, évidemment, en vivant comme tout le monde, en ayant le même job que tout le monde, en ayant des enfants à élever, une carrière à mener de front, et tout ça en même temps de rester mince, et tout ça en même temps d'être perpétuellement jeune. Donc ça, c'est le défi des femmes, des mères. Pour d'autres, le défi, ben, ce sera de gagner suffisamment d'argent, d'avoir une suffisamment grosse voiture, une énorme télévision, pour avoir une reconnaissance sociale, tout en ayant, en étant perpétuellement gentil, etc., etc. Enfin, toute une pression qu'on se met souvent nous-mêmes, parce qu'on laisse aussi la société nous emmener là-dedans. Et il y a un moment donné où c'est juste pas possible, donc on se dit voilà, le monde est hostile, le problème c'est le monde, l'enfer c'est les autres, etc. Et puis, en fait, tout ce temps-là, on se rumine, on s'auto-flagelle, et on n'est pas en train de se demander, ok, qu'est-ce qui fait vraiment du sens pour moi? Et comment est-ce que je peux prendre soin de moi? Et de quoi est-ce que moi j'ai vraiment besoin? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être hautement sensible? Quelle est ma particularité et comment composer en fait avec le monde tel qu'il est aujourd'hui? Une personne hautement sensible Alors, il y a quatre traits principaux selon Hélène Aron, qui est une scientifique que certainement vous connaissez aussi, si vous connaissez le sujet. La profondeur dans le traitement de l'information, sensorielle avant tout, mais c'est évident que pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi intellectuel. Une grande partie des émotions intenses, une tendance à être surstimulée et une perception des détails. Ça veut dire quoi? On a besoin de sens, on cherche, on veut savoir, on veut comprendre. Mieux, par exemple, dans La parentalité hypersensible, qui est un livre de nouveau de Hélène Aron, qui est malheureusement pas encore traduit en français, elle parle très bien de ça, par exemple de la maman hypersensible qui va se poser un million de milliards de questions sur l'alimentation, sur quel est le meilleur pain, la meilleure poussette, le meilleur truc, le meilleur. Et moi je me suis vraiment reconnue là-dedans, qui va se mettre énormément de pression. Ça peut générer de l'anxiété, mais au final, on voit que les hypersensibles sont plus capables en fait de suivre leur cœur dans les décisions qui concernent l'éducation. Et au final, c'est un bénéfice pour les enfants. Alors oui, c'est plus difficile, il y a plus de questions, on ne suit pas bêtement ce qu'on nous dit, ce que la belle-mère dit, ce que la maman dit, ce que la grand-mère a dit, ce que le bouquin machin a dit, mais on essaie de se demander, ok, est-ce que ça fait vraiment sens pour moi? Et surtout, est-ce que c'est applicable à mon enfant? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui? Et quels fruits est-ce que ça porte? Et ça, voilà, c'est un exemple comme ça dans la parentalité parce que c'est ce qui me parle aujourd'hui, actuellement, c'est vraiment les questions de fond que je me pose, mais si vous réfléchissez, c'est un peu comme ça pour tout. Donc, en fait, le monde est hostile, disons le monde est tel qu'il est. Voilà. Il n'est peut-être pas conçu pour nous parce qu'on est 20% maxi, enfin peut-être 20-30%, en tout cas on n'est pas une majorité, donc c'est évident que tout n'a pas été conçu pour nous. Il est bruyant, il est très stimulant. On nous met sous pression, il y a plein d'injonctions, on nous fait peur, on nous balance sans arrêt des infos qu'on est incapable de gérer pour ma part. Par exemple, ce que je vois sur Facebook, j'essaie de m'en protéger vraiment parce que des fois, il y a des choses qui me heurtent où je vois, par exemple, récemment, j'ai vu des animaux qu'on avait empoisonnés, ou alors quand on abandonne des animaux, quand on voit ces enfants qui ont faim à Gaza. Quand on voit bah, ce qui se passe en Ukraine, quand on et partout dans le monde, enfin voilà, moi je vois cette image et j'ai tout un temps comme ça parce qu'en fait on n'est pas censé être comme ça tout le temps confronté à des problèmes qu'on ne peut pas régler et à des choses qui ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce que moi je fais? Je me préserve un maximum et puis je me réfugie dans la prière. Je prie pour ces gens, je prie pour la libération. Et je prends le temps que j'ai besoin pour revenir dans une position où j'ai à nouveau de l'espoir. Et c'est ça, ce combat aussi parfois. Peut-être savoir les choses comme elles sont. Les uns, en fait, voient ce qu'ils veulent voir. Voilà. Donc ça, c'est le bisounours, hein. Tout est joli, tout est beau. Puis ensuite, à un moment donné, ils se cassent la figure. Et puis c'est la faute des autres, c'est des méchants, machin. Ou alors, ils voient ce qu'on veut leur faire voir, donc on les manipule par la peur, par tout un tas de choses, donc ils n'osent plus quitter leur job, ils n'osent plus faire ci, ils n'osent plus faire ça, parce que y a, voilà. Et en fait, on vit tous comme ça, comme des petites marionnettes emprisonnées dans notre truc, avec nos croyances, dont on est tellement convaincu, et tout ça. Et puis, donc, on essaye, on fait un tas d'efforts pour essayer de se conformer à ce qu'on pense qu'on attend de nous, et tout ça. Pourquoi, je vous le demande, la vérité, elle est où? Et est-ce qu'on est vraiment prêt à l'assumer? Quel est vraiment l'enjeu de ce voyage d'incarnation? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que je suis prête à l'accepter et puis du coup à livrer ce combat? Ou est-ce que j'ai envie de continuer en fait à soit me martyriser moi-même, à m'auto-flageller moi-même, ou alors à râler sur le monde, ce qui au final, dans les deux cas, c'est soit une posture de victime, soit une posture finalement de rebelle, de bourreau. Ou alors je me mets dans une posture où je me dis que c'est moi qui vais pouvoir sauver le monde entier, machin, donc j'entre dans un truc très new age, où il y a qu'à, il faut, l'amour peut tout guérir, où je vais m'oublier, faire un burn-out. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout ça au fond, je pense que c'est une forme d'immaturité et ça nous mène quelque part dans un état où j'aurai jamais accès à une paix profonde et non circonstancielle. La difficulté avec la vérité, c'est qu'elle se confronte souvent à nos illusions et à nos désirs. Ce qui rend son acceptation parfois douloureuse. Et je pense que c'est aussi ça, ce voyage, ce combat que nous livrons, c'est pour accepter le monde tel qu'il est et malgré tout cultiver l'espoir, cultiver la lumière. Donc, comme je vous le disais, pour moi, l'hypersensibilité, c'est un choix d'incarnation. Approprions-nous ce choix. Cessons de nous dire c'est difficile que pour nous et pas pour les autres et personne nous aime, personne Parce qu'en fait, ça commence déjà par nous. Si j'attends que le monde entier m'accepte et valide, ça n'arrivera jamais. Donc, à un moment donné, c'est difficile, je ne vois pas encore la route. Si nécessaire, je demande de l'aide, mais il existe un chemin. Rendez-vous compte que ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être une crise, dont parle Dabrowski. C'est peut-être un moment de chaos, dont la résultante est une meilleure santé mentale et un développement de votre personnalité. Et ça, c'est extrêmement puissant. Le fait d'être empathique, alors c'est vrai que ça peut devenir pénible, comme moi, quand je ne peux plus regarder Facebook, parce que sinon, voilà, je me sens déprimée, c'est parfois compliqué. Puis en même temps, je me dis, oui, mais ça fait aussi de moi un être humain. C'est-à-dire que je reste connectée, même si c'est difficile, même si parfois ça me fait souffrir, je continue en fait de ressentir, je ne m'habitue pas, je ne commence pas à trouver ça normal et je ne choisis pas de regarder ailleurs, non. Parfois, quand je suis confrontée, l'utiliser en fait pour me questionner profondément et je vais prier pour ces gens en me disant que quand je ne peux plus rien faire, je peux au moins prier pour eux. Et ça aussi, ça a été prouvé, la prière est puissante. Elle a un impact. Et bien sûr, on dit oui, mais si c'était si facile, ben alors le monde irait mieux. Et ben, sauf que, en fait, oui, si nous avions tous la foi, comme le dit ce verset biblique, de la taille d'un grain de moutarde, on pourrait déplacer des montagnes, sauf que en fait c'est une conscience collective et puis que ben on lutte pas tous dans la même direction, on tire pas tous sur la même corde. Mais sachez que votre prière, votre intention, si vous aimez pas ce mot prière parce que il vous confronte à certains conflits que vous avez par exemple avec l'Église, peu importe, méditez pour la paix, mais ça a vraiment, et ça a été prouvé par la science, ça a une efficacité, ça a un pouvoir. Quand on est hypersensible, le corps nous parle. Quand on n'arrive plus psychiquement à affronter, ben en fait, quelque part, on est poussé dans le dos parce que le corps prendra le relais et nous dit non. Anita, là, il y a quelque chose de prioritaire. Ça suffit plus, là. Tu t'éparpilles, tu es dans l'hyperactivité, tu es en train de fuir. Les vraies questions, maintenant, je te fatigue tellement que tu vas être obligé de t'arrêter et de répondre à ces questions-là. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y a un moment donné, on n'a plus d'autre issue que de traverser, en fait, pour rejoindre la lumière. C'est vraiment cette image aussi de la graine, de cette graine de moutarde encore, dont parle Jésus, qui contient, qui est une toute petite graine, qui est la plus petite graine et qui contient le potentiel d'un arbre immense, mais encore faut-il qu'elle puisse mourir dans la terre, se transformer, tout comme d'ailleurs ce papillon qui se transforme. Et en fait, c'est pas que quelque part il y a une transformation, c'est vraiment que tout se liquéfie et c'est comme si tout renaissait un peu de ce magma, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est comme si on perdait totalement et c'est aussi ça qu'on dit par exemple dans les enseignements, mourir à soi-même pour renaître dans l'esprit. J'ai plein d'illusions, de croyances, etc. Et quand je suis comme ça confrontée, je touche le fond, j'ai pas d'autre choix quelque part de continuer cette quête, de poursuivre ce chemin. Et ce faisant en fait, j'accède à un niveau plus élevé de liberté. Ça nous pousse au fond aussi à nous questionner vraiment sur nos failles. Voilà, où est-ce que, quel mensonge est-ce que j'ai accepté de croire et à quel moment, moi, quelque part, j'ai contribué à alimenter cette négativité, cette noirceur en moi. Et je ne peux peut-être pas seule. Moi, je crois aussi que c'est ça l'enjeu. Je ne m'en sortirai pas seule. Je crois que la guérison est divine. Je crois que ça nous demande aussi de travailler notre humilité, notre vulnérabilité, de nous en remettre et de demander à Dieu de nous guérir. Voilà. Après toutes ces années, au final, je pense que j'ai perdu beaucoup d'énergie, d'argent, de temps, parce que j'ai voulu changer moi-même les choses. Et donc, j'ai refusé d'accepter ce que Dieu avait comme plan pour moi. Et quand j'ai commencé à me dire, ok, maintenant j'arrête de lutter et j'accepte, de toute façon, je n'ai pas d'autre choix, parce que sinon, je ne fais que souffrir, les choses ont commencé à devenir un peu plus faciles. Un bisounours au fond, même si, voilà, je dois dire que probablement, au fond de moi, il y a une part de bisounours encore. Je pense que c'est un hypersensible qui manque de sagesse. C'est celui qui n'a pas compris que tout le monde n'est pas comme lui, qui n'a pas compris qu'il a un certain pouvoir et que si on est d'accord de poursuivre ce chemin, de livrer ce combat, on sera soutenu. On n'est pas seul, Mais notre esprit est un champ de bataille. Il y a des forces qui s'affrontent. Les Amérindiens parlent du loup de la haine et du loup de l'amour. Et dans cette fable, le petit garçon demande donc à son père, mais c'est quel est le loup qui gagne à la fin? Et le père répond, c'est celui que tu nourris le plus. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il n'y a pas un moment donné où c'est terminé, où j'arrête d'évoluer. L'âme est probablement vouée à évoluer jusqu'à ce qu'elle atteigne, je ne sais pas, l'éternité auprès de Dieu. Ça n'existe pas en fait, cet état où à un moment donné j'ai assez travaillé sur moi, j'ai fait assez de développement personnel, puis voilà, puis je peux me reposer, les sorties en inventaire, et je vis l'abondance, et tout est facile, et voilà, j'ai plus rien à faire, quelque part. Non, en fait, alors, pour certains, peut-être qu'ils ont atteint cet état-là déjà, mais je crois qu'au fond, pour la majorité des gens actuellement incarnés sur Terre, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire confiance, de suivre ce processus et d'accepter de se laisser transformer. Merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura convaincu qu'il est maintenant nécessaire de commencer à célébrer vos victoires. Notez-les, comme ça vous pouvez y revenir quand c'est nécessaire et quand le moral est un peu à la baisse. Une fois n'est pas coutume, il y aura une seconde partie à cette vidéo, alors restez bien connectés. Venez sur ma chaîne YouTube Anita Rossier ou mon site internet www.anizen.ch. Avec tout mon amour, je vous souhaite tout le meilleur, mais surtout beaucoup de courage, beaucoup de sagesse et que la paix vous accompagne. Au revoir.